Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité, vous avez donc fait le bon choix. Une fois encore, nous nous intéressons au vin genevois. Je m'aperçois après un petit comptage que c'est notre 51e émission. Et j'avais juré d'arrêter à 50 parce que les redites sont pénibles. Je craignais un petit peu qu'en visitant, en rendant visite, pardon, à 50 vignerons, on ait à peu près 50 fois le même propos. Et puis, on s'aperçoit avec le temps qu'on ne sait pas tout, qu'il y a encore des quantités de choses à découvrir, et d'ailleurs que tout change tout le temps. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être au domaine des Champs Lingots, où nous sommes accueillis par le patron, qui se présentera et qui évoquera donc son domaine. Donc, merci à vous. Je vous laisse décliner identité et nom du domaine.
Oui, merci. Alors, je m'appelle Claude-Alain Cholet. J'ai 54 ans. Je suis donc au domaine des Champs Lingots, où je fais du vin depuis une trentaine d'années. J'ai commencé mon premier millésime en 1990.
Voilà. Alors, merci beaucoup de nous recevoir. Je vais vous poser d'abord une question qu'on vous a posée sûrement 50 fois. C'est l'appellation Champs Lingots. Donc, nous sommes à Asnières, et il y a un domaine de la Côte d'Or, voilà, on est déjà dans les métaux précieux, et puis ici, on est au Champs Lingots, donc les gens, je le suppose, vous demandent s'il y a de l'or dans votre champ.
En effet, c'est une question assez récurrente, et je dois les décevoir, parce qu'en fait, le lingot, c'est le haricot en franco-provençal. Donc, c'est une vieille appellation du lieu, probablement qu'il y a eu des haricots à un moment donné.
Voilà, mais quand vous dites une vieille appellation, c'est une appellation qui a beaucoup de siècles. Est-ce que ça, j'ai cru comprendre que ça datait d'environ 2 millénaires?
Alors, l'appellation, non. Les vins dans la région, oui. Pline l'Ancien en fait mention, donc on sait qu'il y avait du vin ici il y a à peu près 2000 ans. Que c'était du raisin rouge et qu'il se récoltait aux premières gelées, donc plutôt tardivement. Mais le Champs Lingots, c'est ces lieux cadastraux qui datent de quelques siècles probablement, mais vous dire exactement quand, je pense que personne ne le sait avec précision.
Quand vous dites Pline l'Ancien, je me demande du coup si ce n'est pas les vignes les plus anciennes du canton. Parce que les vignes du Mandement, je m'y suis intéressé bien naturellement, puis on trouve des traces vers l'an 1000, la comtesse des Gardes, on parle aussi de Gondebeau qui a légiféré sur les vignes, mais ce que vous dites, c'est beaucoup plus ancien en somme.
Oui, alors je suppose que c'est lié au monde romain qui s'arrêtait pendant quand même assez longtemps sur la rive gauche du lac Léman ou lac de Genève. Et c'est certainement ça qui fait que, on peut le dire, mais si vous demandez au papa Bonnet, justement, puisque vous parliez de la comtesse, qui a fait des recherches sur les pollens de la vigne, il en a trouvé vers Frontenay qui date d'effectivement cette période il y a 2000 ans, c'est-à-dire que quand les Romains sont arrivés, ben, ils ont assez vite fait de la vigne. Enfin, certains pensent que les Celtes l'avaient déjà ici.
Voilà, donc on peut dire que en 2000 ans, les vignerons ont eu le temps de progresser, et maintenant que nous sommes forcément à un très très haut niveau. Il y a une question qui me turlupine depuis longtemps. Champs Lingots, donc on peut supposer qu'il y avait des haricots lingots. Je me demande, si j'achète un terrain, je ne sais pas, par exemple en plein centre du Bugey, un joli terrain en pente vers le sud, comment est-ce que je peux savoir s'il est approprié à la vigne, puisqu'il y a eu des haricots?
Ah, bah déjà, il faut regarder s'il y a déjà eu de la vigne ou s'il y en a autour. Mais à côté de ça, à mon sens, à peu près tout terrain peut plus ou moins accueillir de la vigne. Il faut quand même regarder l'exposition. Est-ce que ça risque de geler? Est-ce que c'est trop sec ou trop humide? Enfin, il y a quand même un minimum à regarder. C'est toujours une question qu'on peut se poser dans les nouveaux coteaux, les nouveaux pays. J'ai eu, il y a longtemps, travaillé en Oregon. On avait arraché de la forêt pour mettre de la vigne. Donc, effectivement, je pense qu'au départ, il y a quelque chose de l'ordre de l'observation pour se dire on va mettre de la vigne là. Après, il y a aussi une autre raison. Si vous regardez en Suisse, on met souvent des vignes, on dit bien sûr en coteaux, mais surtout là où on ne pourrait pas y mettre du blé ou autre chose parce que c'est trop abrupt. Donc, on met dans des endroits où qui ne pourrait pas tellement recevoir une autre culture.
Là où passe l'enjambeur, où on peut travailler, ne serait-ce qu'avec des chevaux de labour ou enfin sans faire de la varappe.
Disons, on peut faire de la varappe pour de la vigne parce qu'on y va, on y va bien sûr à peu près tous les jours, mais peut-être pas d'une manière aussi continue. Si vous faites une récolte de blé sur une petite parcelle entourée de murs dans le laveau, je pense que ça va vous coûter cher le kilo de pain. Donc pour faire quelque chose d'un petit peu plus noble et qui se conserve comme du vin, ça a peut-être plus de sens.
On nous dit qu'il faut des terrains pauvres pour faire de la vigne. Pour obliger les racines à plonger toujours plus profond pour extraire en somme les substances minérales.
Alors je ne sais pas si le but c'est de faire plonger les racines, mais c'est surtout que la vigne elle est un petit peu, disons que ce n'est pas une travailleuse forcenée, donc si on lui met tout sous la main, elle ne va pas trop s'occuper de ses raisins, elle va pousser de manière un peu luxuriante, un peu végétative, et finalement effectivement donner peut-être des vins un peu plus quelconques.
Donc la vigne est paresseuse et il faut lui faire un petit peu tirer la langue, non seulement pour extraire les substances minérales, mais pour aller chercher l'eau si nécessaire.
Oui, exactement. Mais maintenant, on ne peut pas dire que c'est une condition absolue. Si vous pensez au Valais, sans les bis, il n'y aurait certainement pratiquement pas de vigne. Donc il n'y a pas d'eau, on arrose.
Voilà.
C'est pas antinomique. Mais par contre, d'avoir un terrain pauvre fait de gravier, effectivement, ça l'oblige à aller chercher des minéraux assez profondément et puis surtout une variété, j'imagine, de minéraux qui vont donner aussi un goût et une structure au vin qui sera plus personnelle.
Voilà. Alors, je n'insiste pas avec les lingots d'or, prière de ne pas fantasmer, mais je vous pose une autre question, alors moins attendue. Paraît-il que quand vous passez la charrue dans les vignes, si on passe la charrue dans les vignes, on risque de tomber sur des crânes.
Oui, j'ai écrit ça quelque part. C'était plutôt dans les champs attenants, parce qu'il y avait un vieux cimetière gallo-romain du côté de, entre Chevron et Corzier, on va dire à peu près. Et c'était là que mon oncle avait une fois sorti en crâne et qu'il l'avait mis dans la cuisine. Mais c'est une région qui est habitée depuis fort longtemps. Et puis, il y a aussi des chercheurs avec des détecteurs de métaux ici qui cherchent de temps en temps et qui trouvent des aiguilles, des éléments de ceinture. Enfin, j'ai entendu toutes sortes de choses. Enfin, bref, dès qu'on trouve un truc métallique, comme on est sur une ancienne voie romaine, il y en a aux alentours.
Oui. Voilà, donc des archéologues.
Des archéologues plus ou moins amateurs ou parfois des vrais, enfin, des officiels.
Voilà, très bien. On s'accorde une petite pause bien méritée.
Oui,
là, je crois qu'on peut enchaîner. Voilà, donc nous avons le privilège d'être en présence de Claude-Alain Cholet, en son domaine des champs lingots, qui se trouve sur Asnières. Il faut indiquer quand même que l'endroit dispose d'une vue magnifique. De l'endroit où nous sommes, nous voyons des vignes en belle déclivité. En second plan, c'est le lac. En troisième plan, c'est la rive droite. En quatrième plan, c'est le Jura. C'est une vue imprenable, c'est absolument superbe. C'est un lieu pour des balades, voilà. Mais outre les balades, donc, c'est un domaine viticole. Alors, quelques mots pour évoquer l'histoire du domaine sur trois générations.
Alors, je dirais presque quatre. Alors, mon arrière-grand-père est arrivé à Asnières vers...
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Nous sommes toujours reçus à Chevran, près d'Asnières, par M. Claude-Alain Cholet, qui règne sur le domaine des champs lingots. Et voilà, je vais m'intéresser maintenant à votre formation. Donc, vous avez commencé à Marcelin, c'est tout un itinéraire ensuite qui vous mène à Changin. Et puis, après, vous allez plus loin, vous allez voir en Allemagne, en Valais et dans l'Oregon. Alors, reprenons. Marcelin, c'est près de Morges, mais Changin, qui est près de Join, qui est près de Nyon, éclipse beaucoup d'écoles de viticulture du monde. Certains vignerons bourguignons, dont je fais connaissance il y a quelque temps, disent que c'est la meilleure du monde. À Changin, en somme, on apprend l'œnologie sans doute, mais est-ce qu'on apprend la culture du raisin ?
Oui, d'ailleurs j'ai fait une année entière simplement là-dessus, c'est-à-dire j'ai fait une année consacrée à la viticulture. Et puis après, j'ai fait une autre année consacrée à l'œnologie. Mais ce n'est pas des années à plein temps, c'est généralement 3 jours par semaine, si on fait un demi-programme. Puis quand vous faites l'autre demi-programme, il vous reste peut-être 2 jours et demi à faire.
Donc vous pouvez mener de front la tenue du domaine et en même temps, votre formation a changé.
Voilà, c'était l'idée, c'est que je puisse encore garder un petit peu d'utilité sur le domaine à un moment donné. Certains le font de front, donc ils font le programme complet et donc du coup, ils n'ont plus de pratique chez eux ou ailleurs. Il y a aussi tous ceux qui n'ont pas de vigne, donc pourquoi pas le faire tout en une fois. Mais dans notre cas, comme beaucoup de vignerons qui ont un domaine, c'est quand même plus simple de séparer les choses en 2 ou 3 ans, comme ça on se permet de travailler encore sur le domaine.
Voilà, donc maintenant vous êtes au top ou bien est-ce que ça change tout le temps?
Non, ça change tout le temps en fait. Il y a plein de choses qu'on a appris, qu'on a de la peine des fois à oublier parce qu'il faut le faire pour apprendre d'autres choses. L'école, c'est intéressant parce que ça nous apprend quand même des choses qu'on ne voit pas forcément chez soi. Mais je pense qu'il faut rester curieux, envie de changer et puis pas rester dans des schémas. Un de mes collègues me disait tout récemment que c'était plus difficile pour lui, peut-être parce qu'il était sorti plus récemment, de sortir des schémas qu'on lui avait inculqués. Et quand on veut faire, comme actuellement je fais du bio, ou des vins naturels sans sulfite ou levure sauvage, et qu'on a été formaté pour travailler différemment, ben c'est vrai que sur le moment, ça nous paraît bizarre d'y travailler de manière vraiment différente. Après, il faut essayer de se dire que avant les années 50, la plupart des vins n'étaient pas filtrés, étaient en levure sauvage. Et donc, on a eu une sorte de parenthèse dans demi-siècle sur 2 ou 3 000 ans d'histoire viticole et qu'il ne faudrait pas non plus que ce demi-siècle occulte tout ce qui s'est passé avant.
Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire en somme que Changin est grandement responsable de l'extraordinaire qualité des vins genevois? Je pèse mes mots.
En tout cas, oui, je pense que ça a contribué à la formation, disons, assez poussée de la plupart de mes collègues et moi-même. Mais il n'y a pas que Changin. Je vois simplement la station à Genève nous a beaucoup aidés et soutenus.
Donc Claude Desbaillets.
Voilà, pour faire de la micro-recherche sur place, tester des choses ici. Et c'est un tout. On est une région où les gens collaborent bien, et ça, c'est agréable. Il y a des régions de France que je ne citerai pas, où les vignerons se regardent en chien de faïence, ne se parlent pas, et ce n'est pas comme ça qu'on progresse.
Oui, pas loin d'ici, d'ailleurs. Oui, il y a des vignerons qui ont fait des procès à d'autres. C'est pas très ancien, ça.
Ah bon?
Oui, tout à fait. Bien. Ensuite, vous êtes allé en Allemagne. Alors, comme chacun sait, l'Allemagne n'a pas une réputation très viticole, ce qui est une grosse erreur parce que je me suis laissé dire qu'on y trouve 120 cépages autorisés et qu'il y a des vignes pratiquement jusqu'aux portes de Berlin. En somme, qu'êtes-vous allé chercher en Allemagne?
Bon, c'était déjà l'idée d'apprendre un peu d'allemand. Et puis, sur le moment, parce qu'on est jeune et qu'on est comme ça, on se dit que la Suisse allemande, ce n'est pas idéal. Aujourd'hui, je me dis que ce n'était peut-être pas totalement juste. Mais je suis arrivé dans une région très viticole et là aussi depuis 2000 ans.
Quelle région?
Le Rhein-Essen.
D'accord.
Qui est donc, en français, je crois que c'est le Palatinat. Enfin, Palatinat, c'est le Pfalz, mais c'est juste entre le Rhin et le Pfalz, si vous
voulez. Voilà, c'est bien au nord de la province de Bade, par exemple.
C'est entre Mainz et Worms, à peu près,
voilà.
Si vous voulez.
Voilà.
Et puis, donc je suis arrivé dans une exploitation assez grande, 25 hectares. À l'époque, beaucoup de cépages, mais que des blancs. J'y suis retourné plusieurs fois depuis. Maintenant, c'est un peu comme partout, c'est à peu près 50% de rouge. Donc ça a aussi évolué. Ils avaient déjà de la mi-haute en herbée, ils avaient pas mal de technologies assez avancées. Disons, ils étaient plus portés sur la technologie que nous, en Suisse. Et c'était un grand parc de tracteurs, ce qui m'a aussi un petit peu plus fait la main avec plein de machines, etc. C'était assez intéressant. Mais voilà.
Est-ce que votre style de vin actuel, parce qu'on observe, et tant mieux, que chaque vigneron a son style, est-ce que votre style de vin est influencé par l'Allemagne?
Alors honnêtement, pas tellement. Je ne peux pas dire que j'appréciais beaucoup le type de vin qu'ils faisaient là-bas. Toutefois, assez vite, j'ai mis du Kerner que j'avais connu là-bas. Mon maître de stage à l'époque était Pierre Villard de Danière et il m'avait accompagné là-bas. Il était aussi pépiniériste, il avait ramené des plants de Kerner. Après, son voisin en a planté, Gavillet, donc, qui était le premier dans le canton à en mettre. Après, il y a eu Ramu et puis moi. Et après, c'est vrai qu'on ne l'a pas vinifié comme les Allemands le font. Mais c'était à l'époque intéressant de faire descendre un cépage du Nord, parce que c'est un petit peu ce qu'on cherchait dans les années 80, c'était des degrés. Maintenant, on a un problème avec ces cépages justement du Nord, parce qu'ils en font un peu trop. Vous voyez, vous prenez une blonde de Hambourg, vous la mettez à Madrid, elle prend un coup de soleil. Puis vous prenez une madrilène, vous la mettez à Hambourg, et puis elle se claque les dents parce qu'elle a froid. Et les cépages, ils ont un petit peu ce problème de... Ils sont habitués à certains terroirs, et puis si vous le déplacez de 600 km au sud, ben, ça peut être intéressant quand vous recherchez quelque chose comme du sucre. Mais quand on est maintenant voilà, en 2020 et qu'on a... On a des étés très chauds, c'est pas quelque chose que je referais.
Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est vrai qu'avec le changement climatique, il y a une nouvelle donne quand même, mais qui permet de belles réussites, à mon avis, avec des cépages méridionaux par contre.
Oui, c'est ça, maintenant on va plutôt les chercher au sud.
C'est ça, on va plutôt les chercher au sud. Voilà. Et puis après l'Allemagne, insatiable que vous êtes sans doute, vous êtes ensuite allé dans l'Oregon.
Voilà.
Alors, pourquoi aller dans l'Oregon? Parce que les vins américains, pour moi, c'est une certaine tradition qui correspond à une certaine façon de se nourrir, à une certaine gastronomie, si vraiment on peut employer ce mot. C'est-à-dire que pour moi, l'Amérique, c'est le pays du ketchup, c'est le pays des sauces en bouteille. Et les vins qui peuvent y répondre, c'est des vins extrêmement capiteux, à mon avis. Je pense aux vins de Californie. Pourquoi donc l'Oregon?
Alors, l'Oregon, c'est un peu un accident de famille parce que j'ai ma tante, donc la sœur de mon père, qui vit depuis fort longtemps, au moins 60 ans maintenant, je crois, dans l'état de Washington, donc au nord de l'Oregon, près de Seattle. Et quand on a cherché une adresse, d'abord, on pense à ceux qu'on connaît, comme Robert Mondavi, ou comme ça, on leur écrit, mais eux, ils reçoivent des gens déjà fort diplômés de régions peut-être un petit peu plus prestigieuses que la Suisse. Et puis bon, ils m'ont répondu très gentiment que voilà, ils étaient complets. Et puis finalement, on s'est dit, j'avais un cousin qui était allé en Oregon dans l'agriculture, on a demandé à cet agriculteur s'il connaissait un vigneron, c'était le cas. Et ça m'a plu parce qu'en fait, ça ressemble plus à la structure familiale suisse, c'est des petites exploitations familiales. Alors qu'en Californie, je l'ai visité plusieurs fois, c'est vraiment des grosses structures.
C'est des usines.
C'est des usines avec des directeurs commerciaux, avec des œnologues, etc. Tandis que là, j'étais typiquement dans mon élément, c'est-à-dire qu'il y a un patron qui fait tout. Et finalement, quand on bosse pour un gars comme ça, ben on est obligé de tout faire aussi. Donc ça, c'est aussi un...
Donc formation complète.
Oui, je trouve que c'est plus intéressant.
Il y a du pinot noir dans l'Oregon.
Alors, à l'époque, il y avait de tout. Et maintenant... Ils avaient commencé en 87 à se spécialiser dans le pinot noir. Ils avaient fait le first celebration pinot noir. Et j'y étais, donc je suis assez fier de ça. Il y avait Drouin qui était là pour la première fois, qui a acheté un domaine dans la foulée. C'était une période très intéressante. Mais pour revenir à la nourriture, j'étais chez un gars qui était d'origine française, enfin lointaine, hein, peut-être 3 ou 4 générations, mais qui en avait gardé un peu l'envie et le goût, et on allait toujours dans des bons restaurants. Et l'Oregon, ben, c'est au bord de l'océan, il y a des tas de poissons, il y a des tas de choses à manger qui sont très bonnes.
Et en fait, faut que je remise mon cliché.
Voilà, si on met un petit peu les moyens là-bas, on mange très bien, mais il faut un petit peu choisir ces lieux.
Voilà, est-ce qu'on peut confondre un pinot noir de l'Oregon et un pinot noir genevois?
Franchement, non. Je ne crois pas. Ici, je les trouve beaucoup plus portés sur le fruit, la cerise, un peu la délicatesse. Eux, ils ont clairement, on va dire, choisi un style plus français, un peu plus dur, un peu plus tannique, un petit peu plus pointu, il me semble.
Ce que j'ose dire, plus boisé.
Alors, je ne suis pas au cours des dernières tendances là-bas, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était clairement le cas, oui.
Voilà, vous avez mérité une pause sous forme de ritournelle. Radio Cité vous l'accorde avec plaisir. Après quoi, nous continuons notre entretien avec Claude-Alain Chollet.
Radio Cité Genève.
92.2 FM.
Vous êtes sur Radio Cité, vous avez fait le bon choix. Nous continuons à nous instruire sur les vins genevois. Nous sommes en face de Claude-Alain Chollet, qui nous reçoit en son domaine de Chevrant. J'ai remarqué, à essayer de me documenter un petit peu avant cet entretien, que vous êtes très orienté nature. Donc vous êtes le premier vigneron à avoir décidé, vigneron genevois, je précise, sauf erreur, avoir décidé d'enherber votre vignoble. Et je pense que ça a été fait à une époque où les gens, justement, traquaient les mauvaises herbes. Est-ce qu'on vous a regardé de travers ?
Oui, alors certains vieux vignerons qui ne sont plus là, heureusement, on s'entend, mais
malheureusement,
qui sont d'une autre génération, m'avaient même cité la Bible, « Tu ne laisseras pas pousser de l'herbe entre tes ceps ». Et c'est vrai que ça a un petit peu, on va dire, chicané une génération qui ne voyait pas la vigne comme ça. Dans ma propre famille, on m'a dit oh, « ça va faire chenille, ça va faire moche, ça va faire plein de choses ». Et puis très vite, mon père lui-même s'est rendu compte que c'était très pratique, que quand on allait derrière un orage dans la vigne parce qu'il fallait y aller, ben, on ne ramenait pas des tonnes de terre sur la route. Que le travail était facilité, qu'il y avait moins de pourriture. Enfin, finalement, il n'y avait pratiquement que des avantages. Il y a un moment d'adaptation pour la vigne, pour qu'elle se règle au niveau de l'azote. Parce que, surtout sur le chasselas, si ça manquait d'azote, alors qu'elle avait l'habitude d'en avoir pas mal, prenait des goûts peut-être un petit peu plus prononcés, un petit peu plus tanniques. Mais c'est comme tout, finalement, la vigne dans son ensemble trouve un équilibre. Et au contraire, c'est comme on disait tout à l'heure, ça l'oblige à aller chercher d'autres éléments plus profonds. Et cette concurrence me semble même plutôt profitable.
Voilà, donc maintenant vous triomphez et tout le monde se met à laisser pousser les herbes.
Oui, enfin, je pense que ça fait longtemps maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y en avait encore quelques-uns dans la région qui étaient un peu irréductibles, mais je crois que maintenant tout le monde y est.
Tout le monde a compris que ça profite aux raisins et que c'est en tout cas pas quelque chose qui donne l'image de négligence. Tout le monde a compris le raisonnement qui est à la clé.
Oui, tout à fait. Et puis après, il y a encore, la marche supérieure. Il y avait les premiers gazons qui étaient tondus toutes les deux semaines et puis il fallait qu'il n'y ait rien ne dépasse.
Voilà.
Et avec des herbicides. Et puis maintenant, bon, ici depuis 2013, mais ailleurs des fois depuis plus longtemps, d'autres viennent d'y passer, mais l'idée est de se passer d'herbicides et au contraire de laisser pousser l'herbe avec le plus possible d'herbes et d'espèces différentes de végétaux, comme un peu une sorte de lutte contre la monoculture, si vous voulez.
Voilà, donc je dirais la vraie biodiversité, parce que en ville, le service des parcs s'échine désespérément à illustrer la biodiversité, mais la vraie biodiversité, je crois que nous en sommes d'accord, elle se trouve à la campagne par excellence. Voilà, je disais que vous étiez proche de la nature. Vous n'avez pas le label bio, mais peut-être un peu tout comme, vous avez un rapport d'analyse annuel. En quoi est-ce que ça consiste ?
Moi, il y avait une campagne d'analyse des vins pour mesurer les résidus dans les vins suisses, et je me suis dit, évidemment, je vais y participer. Voir si on trouve quelque chose. Donc, ils ont analysé, je crois qu'il y a plus de 140 produits qui ont été utilisés dans l'agriculture depuis le début de cette agronomie chimique. Et j'étais satisfait de voir qu'ils n'avaient absolument rien trouvé. Donc, on peut dire que ça fonctionne. Alors, j'ai un petit avantage, c'est que, vous voyez, le coteau n'est pas très large et je n'ai pas vraiment de voisins. Donc, il n'y aurait pas de pollution possible de quelqu'un qui utiliserait, disons, des produits que je n'utilise pas.
Voilà.
Donc, c'est un avantage, c'est sûr. Mais pourquoi je ne suis pas labellisé ? Parce que d'abord, j'ai une allergie à la paperasse, que ça fait déjà plusieurs années que j'ai refusé les subventions parce que j'estime qu'on est plus libre quand on est vraiment indépendant. Alors, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Et puis que je peux pas dire jeter la pierre à ceux qui les acceptent parce qu'on ne peut pas toujours faire autrement. Mais je n'aime pas beaucoup la politique agricole suisse et disons que on ne peut pas d'un côté accepter l'argent de Berne ou de Genève et en même temps gueuler contre le système. Donc voilà, je préfère choisir mon camp.
Voilà, donc c'est pas des vins bio, mais c'est des vins qui sont sains simplement.
Voilà, c'est des vins que j'estime naturels, qu'ils n'utilisent que des produits bio ou pas du tout, comme des cépages comme le Divico, qui sont très intéressants puisque on peut revenir à une viticulture d'avant 1850 sans même cuivre et soufre, ce qui est intéressant. Et bon, je sais pas, je pense que je suis trop vieux aujourd'hui pour me dire qu'un jour je vais pouvoir changer tout le vignoble. Ça prend quand même du temps, mais ça pourrait être un objectif à moyen et à long terme de progressivement changer les cépages pour des cépages résistants.
Aux maladies et, voilà, et ouais, adaptés au climat.
Exactement.
En somme, deux critères à essayer de cumuler.
Voilà.
Voilà, je disais proche de la nature, je lis aussi pas de soufre. Votre vin ne risque pas de tomber malade une fois en bouteille?
Alors, tous mes vins ne sont pas sans sulfite. Mais je dois être parmi les premiers, peut-être même le premier à Genève, à avoir fait des vins sans sulfite. C'était en 92. Et depuis, régulièrement, je fais une ou deux cuvées. Et puis, un peu plus fortement cette année, enfin en 2019, où là, j'ai fait 5 ou 6 vins sans sulfite. Et si on réussit sa mise en bouteille, il n'y a plus grand-chose à craindre. C'est plutôt le processus avant qui peut causer des fois des soucis. Mais une fois que le vin a été mis dans la bouteille bien bouchée, le bouchon étant ce qu'il est, c'est-à-dire efficace, il n'y a pratiquement pas de risque que le vin tourne en quoi que ce soit.
Voilà donc avis aux personnes qui souffrent de maux de tête à consommer du vin du domaine des Champs Lingots. Vous ne risquez pas de vous réveiller le lendemain matin avec la gueule de bois. Bon, pas de soufre, pas de colle non plus.
Oui, parce que je trouve que le raisin, il est bien comme ça. Donc, l'idée de coller les vins, elle ne m'insupporte pas. Hein. Je veux dire, si quelqu'un veut mettre du blanc d'œuf ou comme ça, c'est, pourquoi pas.
C'est plus clair. Hein.
Voilà, seulement la liste des colles autorisées prend presque un bottin téléphonique aujourd'hui. Et je trouve plus clair de ne pas en utiliser, de ne pas, pas négocier là-dessus. De toute façon, si le raisin est bien fait, le vin sera bon. L'idée de affiner, je trouve que ça appauvrit. Donc je préfère le vin assez brut de décoffrage. Et je me dis, ben, tout le potentiel, il est là. On n'a pas essayé d'en enlever, si vous voulez.
Est-ce qu'on peut dire que non collé, le vin garde peut-être une meilleure valeur aromatique?
Alors, c'est mon opinion, mais c'est vraiment personnel. Je pense que je peux comprendre que d'autres personnes voient les choses différemment. Mais j'essaye de garder le potentiel le plus intact de ce que j'ai sorti de la vigne. Et donc, l'idée de collage va à l'encontre de cette philosophie presque de ce qu'on appelle les vins naturels, qui consiste un petit peu à laisser faire, je dirais.
Oui, le collage, c'est pour l'apparence, finalement.
C'est pas seulement pour l'apparence. Des fois, il y en a qui trouvent qu'il y a une petite amertume ou qu'il y a un petit peu de ceci ou un petit peu de cela, puis ils se disent, ben, je vais essayer de gommer ça. Mais je ne sais pas s'ils réalisent qu'en gommant quelque chose, on gomme autre chose qu'on ne réalise peut-être pas sur le moment et que finalement, ça nous arrive combien de fois, on va au bistrot, on commande un verre de chasse là, puis de pinot blanc, puis de je ne sais pas quoi, et puis on a l'impression d'avoir bu la même chose. Ils ont été trop affinés. En fait, ils ont été dépouillés.
C'est ça. Donc, défendre la vérité du cépage. Voilà, une dernière question. Là, il faudra éclairer ma lanterne parce que je ne sais pas du tout de quoi il est question. Pas de concentration.
Ah, c'est... Bon, aujourd'hui, ça perd un peu de son sens parce que ça se faisait justement dans les années où il y avait moins de soleil ou moins de chaleur. Et donc, le raisin rentrait, les cuves étaient pleines et puis manquait éventuellement un petit peu de sucre ou disons tout simplement était un peu dilué quoi, avait trop d'eau. Donc ça passait dans des machines qui marchent un peu par osmose inverse et qui arrivent à vous aspirer l'eau si vous voulez. Donc en fait on assèche le vin de son eau et donc on le concentre. mais par un procédé assez violent, qui est de l'osmose inverse, et puis qui alors ne respecte plus du tout le millésime, parce que vous comprenez bien que si vous avez une belle année, et puis que l'année suivante, elle est ce qu'on appelle une crouille année, mais que vous évaporez l'eau quelque part, sous vide, et que vous la concentrez, c'est plus le soleil qui a fait le vin, c'est Mühlberg, c'est les centrales, que ce soit nucléaire ou hydraulique, c'est l'électricité qui a fait votre vin. Alors, quand vous allez déguster anciennement au concours Jean-Louis pour essayer de reconnaître le millésime avec un concentrateur, bien, bonjour les dégâts.
Voilà, donc effectivement, vous êtes proche de la nature et vous êtes en quête, je dirais, d'une vérité du vin. Voilà. Eh bien, Claude-Alain Cholet et Aristide vous accordent une nouvelle pause avec la ritournelle.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Vous êtes toujours sur Radio Cité. Nous sommes en entretien avec Claude-Alain Cholet du domaine des Champs Lingots. Il n'y a pas d'or dans la terre, mais il y a des bons vins en perspective, surtout en cet automne 2020 où la vendange semble assez prometteuse. Je souhaite aborder quelques cas particuliers. Vous avez un rosé intitulé Rosé Tagada. Pourquoi cette dénomination qui peut surprendre ?
Alors, le nom vient de ma femme qui, en goûtant ce vin, lui a dit que ça lui rappelait les fraises Tagada. C'est vrai qu'il a un petit goût de fraise. Et puis là aussi, les couleurs, il a une couleur assez sombre. Assez sombre, c'est pas le terme, mais disons bien appuyée, qui va à l'inverse des rosés qu'on voit actuellement, qui sont très clairs, très, très pâles. Donc là, je ne suis pas du tout dans la tendance actuelle. Et on cherchait un nom qui dénote un petit peu. Donc ce rosé est également sans sulfite, non filtré, un rosé de Gamay. Alors quand la levure se remet en circulation, parce qu'on a un peu bougé la bouteille, il prend un petit côté un peu laiteux, un peu plus rose. Et comme je vous le disais, c'est surtout les fraises Tagada qui revenaient un petit peu.
Voilà, donc votre vin, selon le credo que vous avez développé tout à l'heure, n'a rien à voir avec la chimie qui permet de parfumer les fraises Tagada, les fraises du même nom. Voilà. Une autre chose qui a retenu mon attention, c'est votre étiquette. Votre étiquette, elle est atypique. Il y a, entre les vignerons genevois, des étiquettes qui se ressemblent, qui sont plus art contemporain, qui sont peut-être plus design, graphique, etc. Vous avez fait un choix différent. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste ?
Oui, alors j'ai mandaté ma cousine Réanne Favreau-Dufour, qui est une artiste hors pair et qui fait du découpage, donc des poyas, du pays d'en haut.
Tradition de Châteaudet.
Voilà, donc papier noir, etc. Et je lui ai demandé de faire quelque chose qui rappelle le domaine. Je voulais voir le lac, des bateaux, nous-mêmes ici, et puis des gens travaillant dans la vigne. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc sur l'étiquette, on peut y voir ma famille et moi-même, chiens et chats compris, et puis les enfants, la vigne, le vin, la Neptune, enfin il y a tout ça. Et puis en même temps, les Cholet, il y a très longtemps, sont originaires de vers Fribourg. Et je trouvais que c'était un petit rappel de nos ancêtres de mettre une poya, quelque part, viticole, sur notre bouteille. Surtout que c'était plutôt un truc qu'on verrait avec des produits fromagers ou éventuellement du chocolat. Et je trouvais, et je crois qu'à l'époque, ça ne se faisait pas pour le vin. Et je trouvais que c'était une bonne idée.
Voilà, donc, sans vouloir adresser des compliments creux, sans partialité, je me permet de trouver ces étiquettes splendides dans ce sens que je les trouve assez modernes et traditionnelles. Je trouve que c'est une très très belle synthèse. Une dernière question, si vous le permettez. Vous avez écrit quelque part, je crois sur votre site, où on trouve ça dans le livre 2020, on peut toujours faire mieux. En somme, à ce niveau d'excellence que nous connaissons actuellement, en quoi est-ce qu'on pourrait encore progresser ?
On peut toujours passer plus de temps à la vigne, on peut toujours faire mieux au niveau marketing. Il y a plein de domaines où on peut faire mieux, mais c'est quand même difficile de faire mieux partout et tout le temps. Donc je pense qu'il y a des choix à faire, et puis aussi se laisser du temps pour vivre et pas, trop en faire des fois. Mais je pense qu'on peut faire mieux parce qu'on en a parlé. La vigne est un processus assez lent. On plante la vigne pour des fois 30 ans. Et là, on a vu ces dernières 30 années que le climat, il a bougé assez rapidement. Donc, à un moment donné, quand on plante quelque chose, on essaie de l'adapter au mieux. Donc, on va faire mieux que ce qu'on avait avant, quelque part. Mais par rapport à l'époque. Donc, ce n'est pas qu'on sera forcément mieux qu'il y a 30 ans, mais on sera mieux placé que par rapport à notre temps.
J'ai cru comprendre que les nouveaux cépages, il fallait un certain temps pour les apprivoiser.
C'est vrai, parce que on ne sait jamais trop au départ quand les vendanger, par exemple. Je me rappelle très bien des débuts du gamaret. C'était un peu comme le gamay. On disait, ah, c'est quand même mieux de les vendanger tôt, parce qu'il y a plus de fruité, ou ceci ou cela. Puis aujourd'hui, on dit exactement l'inverse. Il faut les vendanger tard pour arrondir les tanins, etc. Donc ça prend du temps à maîtriser. Et puis après, une fois que vous avez la date des vendanges, est-ce que vous allez faire un cuvage de 21 jours ou de 6 jours, etc. Mais vous n'avez qu'un essai par année, grosso modo. Surtout si vous avez une petite cave comme la mienne. Donc forcément, en 30 ans, ça vous fait 30 essais. Ce n'est pas énorme non plus. Donc c'est aussi là où on peut faire mieux, c'est que ça prend du temps. Et c'est là aussi, en discutant avec des collègues, qu'on se dit, bah, tiens, lui, il a fait bien. Lui, j'aime moins. Il faudrait savoir pourquoi, etc.
Voilà, vous échangez vos expériences, vous goûtez les vins respectifs et ça vous permet de réorienter pour tendre vers votre idéal, en somme.
Oui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, je trouve que on se voit un petit peu moins qu'à une époque, parce que je crois que tout le monde a un rythme de vie qui devient un peu fou. Il y avait quand même un peu plus de... Je me rends compte, on avait plus de temps autrefois. Mais bon, on est dans une période un petit peu plus critique et donc les gens sont un peu plus au taquet et peut-être ils se laissent un petit peu moins vivre. Mais ça nous laisse quand même le temps de boire des verres et de discuter.
Voilà, retour à l'essentiel, voilà. Retour à la terre. Eh bien, merci beaucoup Claude-Alain Chollet. Nous avons appris beaucoup de choses et il est encore une fois démontré que les vignerons genevois sont des perfectionnistes. Merci de votre fidélité. À bientôt.
Au revoir, merci.